Bonjour, voici un nouveau volet de l'émission Parlez-moi de vous. Une émission un petit peu étrange aujourd'hui puisqu'il s'agit de piéger un artiste chez lui par le biais du téléphone. C'est la première fois que je fais ça. Et j'ai l'immense honneur, plaisir et privilège de recevoir aujourd'hui Christian Vander. Christian Vander, bonjour.
Bonjour.
Christian, j'ai eu l'occasion d'aller vous écouter au Café de la Plage avec votre nouveau quartet. Mais on ne va peut-être pas parler tout de suite de cette entreprise, de cette expérience. Vous avez l'habitude des entrevues, bien sûr. On vous a posé toutes les questions possibles et imaginables. Alors on va essayer de changer un petit peu de cap, d'horizon et parler un petit peu plus de vous, c'est-à-dire du musicien que vous êtes. Vous êtes compositeur. Le public vous connaît comme batteur, comme pianiste, comme chanteur. Et comme compositeur, un peu moins. Pourquoi ?
Eh bien, je pense que les gens sont plutôt sensibles à l'extérieur des choses. Quels que soient les compositeurs, il se trouve que je joue correctement la batterie. Hein, vous voyez ? Et les gens regardent la batterie, c'est très beau, ça fait plein d'étincelles. Et puis voilà, ça ne pose pas plus de questions que ça. Donc en fait, on pourrait dire j'ai composé tous les morceaux de tous les compositeurs de Magma.
Oui, c'est une façon d'aborder les
choses.
Justement, on peut peut-être profiter de ces entrevues pour rectifier le tir et considérer qu'une spécialité, ce n'est pas forcément signifiant d'une personne. Ça peut être aussi le côté extérieur, comme vous dites, le côté extérieur. Mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes compositeur. Et cette musique, cet esprit du compositeur, on écrit sur le papier et ces notes deviennent de la musique. Et au service de cette musique, vous avez été, pour la majeure partie du public, on va dire, entre guillemets, surtout un batteur. Alors que moi, je n'ai jamais considéré que vous étiez un batteur. Pour moi, la batterie, c'est un instrument de musique, après tout. Hein ? Il faut peut-être le rappeler.
C'est un instrument de percussion. Je compose une musique qui est assez percutive. Donc très rythmée. C'est pour ça qu'à certains moments, on m'a dit « Oui, ça a des similitudes avec Karl Orff, qu'à l'époque, je n'avais jamais écouté. » Bon, La composition, de toute manière, n'est pas intervenue n'importe où, n'importe quand.
À quel moment elle s'est présentée à vous, cette ouverture ?
Je peux dire, dans le temps, j'ai dit, surtout, j'ai composé mes manques. Parce que vous savez fort bien qu'on peut trouver tout partout. Mmh. Tout ce qu'on veut, on a envie d'écouter à peu près. Bon, il suffit d'aller dans une fax, là où je ne vais jamais. Mais écouter toutes les choses, ça, on a toujours l'occasion de le faire, soit les amis nous font découvrir, etc. etc. Bon, l'idée, c'est de... Moi, j'ai dit, je compose mes manques, ce que je n'entends pas, ce qui me manque, finalement. Et là où j'ai l'impression, en tout cas, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait.
Donc, votre propos, dès le début du travail sur la composition musicale, ça a été de chercher quelque chose à l'intérieur de vous qui n'existait pas, bien que...
C'est pas tout à fait à l'intérieur de moi. Au départ, c'était purement instinctif. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, mettons, on remonte à 1969, à l'époque où j'ai commencé à composer réellement, c'était plutôt en réaction, si on peut dire, par rapport à certains groupes, notamment tous les groupes, qui jouait trop sur les réverbes, envoyait trois notes dans l'espace et, comme on disait à l'époque, s'éclatait ou rêvait un peu trop sur ces notes-là. Moi qui écoutais John Coltrane, chaque trait de saxophone, c'était un peu comme une symphonie.
Oui.
Je trouvais ça d'une pauvreté affligeante. Et il n'était pas difficile de composer quelque chose de plus... sans dire plus riche, j'aime pas le terme, simplement plus mouvementé, plus rapide surtout. Il y avait un manque de rapidité dans l'expression.
Vous pensiez que les compositeurs de l'époque faisaient des choses un petit peu trop délayées, un petit peu trop faciles, un petit peu trop planantes.
Voilà, le mot est juste planante, c'est l'expression de l'époque.
C'était la mode hippie, on peut le rappeler, qui a duré
jusqu'aux
années 70.
Oui, c'est une mode qui a été imposée, comme toutes les modes d'ailleurs. Mm-hmm. Sinon, on n'aurait pas cette idée.
Oui, comme on
dit. Si on laissait les gens composer eux-mêmes sans leur indiquer des choses, je pense que peut-être ils extrairaient quelque chose de plus intéressant d'eux-mêmes.
Vous avez été donc, en tant qu'auditeur, frustré par la mode ambiante et vous vouliez, un peu seul contre tous, vous ériger contre ce système un peu mou de la publicité des maisons de disques qui mettaient en exergue des groupes pop, comment dire, des groupes d'expression un peu, on va redire, planantes. Hein, c'était le style de l'époque, hein, on goûtait à tout. Et on faisait croire aux gens que si on prenait la drogue, on composait mieux. Et qu'on découvrait des paysages intérieurs qui étaient plus intéressants que les yéyés. C'était en rupture avec le yéyé, en fait, aussi, avec le rock. Donc ça, vous avez dit non dès le départ.
C'est-à-dire qu'on n'a pas dit non au départ. C'est-à-dire que, bon, on a plus ou moins de la chance dans la vie. Moi, j'ai eu la chance d'être plutôt bien éduqué musicalement.
Vous avez baigné dans le jazz.
J'ai baigné.
Vous êtes un baigneur du jazz.
Voilà. Je me suis trempé, immergé dans cette ambiance musicale qui était la bonne, finalement. On aurait pu m'indiquer des gens comme Maxime Sory ou William Sorin. Il s'est trouvé qu'on m'a dirigé vers la musique de John Coltrane, voire certains classiques.
Oui, mais comme dirait William Sorin, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Et vous vouliez sortir de cette boîte. Voilà. Quel a été votre bain, un bain de qualité, tout de suite ?
Jean-Sébastien Bach.
Mm-hmm. Le premier des jazzmen. Vous avez découvert la musique de Jean-Sébastien par quelles œuvres, notamment ?
Tout simplement les concertos brandebourgeois.
C'est pas les pires ?
Non, j'écoutais parallèlement également beaucoup Stravinsky.
Oui.
Et puis forcément du jazz, évidemment. Mais le jazz de cette époque, c'est-à-dire dans fait début des années 50.
Vous pourriez rappeler à nos auditeurs quels étaient les maîtres du jazz à partir des années 50 ?
Dans les années 50, mettons, à partir du moment où j'étais plus éveillé, voilà, encore. Ou non, simplement. Parce que quand j'étais très, 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 très jeune, je reconnaissais les disques aux étiquettes. Je ne savais même pas lire le nom ni du compositeur ni de l'artiste. J'écoutais de vieux 78 tours que ma tante cachait dans son placard. Et je les sortais, il y en avait un notamment qui était blanc avec des petites rayures vertes que j'écoutais beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus le nom, hélas, du musicien qui jouait, ou en tout cas, que ce soit du compositeur, que ce soit de l'arrangeur ou de l'artiste.
Vous avez été donc une sorte de passager clandestin de la musique ? Et en découvrant par des recherches dans l'armoire de votre tante, vous avez découvert un monde musical qui vous a nourri ?
Qui m'avait été caché.
Ah oui, ça c'est donc une
parce
découverte.
Parce que c'était
découverte.
À l'époque pas bien vu d'écouter du jazz déjà. Et ma mère en écoutait beaucoup. Ma mère était très jeune. J'ai eu la chance d'avoir une mère très très jeune, et vice versa. Donc elle avait 16 ans. Et mon père était très mélomane, écoutait beaucoup de jazz. Et j'ai été élevé par mon oncle et ma tante, qui cachaient tous ces disques. Et moi, quand ma tante était quelque part en course ou en visite, je ne sais où, pendant quelques heures, je sortais tous ces vieux disques avec le phono à aiguille. Et j'écoutais ces disques de jazz.
En bon astronaute de la musique, vous avez découvert la face cachée du talent de musicien.
En tout cas, tout ce qu'on ne pouvait pas écouter, ce qui ne semblait pas être la mode en radio.
Alors c'est intéressant parce que là, vous me confiez quelque chose d'une époque que je n'ai pas connue, puisque je suis arrivé dans les années 60, où le jazz était dissident.
Oui.
On peut notamment relater un souvenir terrible que j'ai vu à propos de l'Albanie. J'ai vu des pauvres gars qui avaient essayé de s'échapper de l'Albanie, souvent vers Ojda, et qui étaient accusés d'être des azous et d'écouter du jazz. Ils ont été fusillés, hein. Il faut le préciser. De la même manière que j'ai entendu que les premiers bluesmen qui ont essayé de faire du gospel un peu différent ont été assassinés, puisqu'ils trahissaient la parole de Dieu avec des musiques un peu sauvages, comme on a toujours dit à certaines époques. Donc ça, c'est quand même des énigmes cruelles qui ont constitué des condamnations non moins cruelles et non rédhibitoires, hein, puisqu'on les a tués, les gens. Mais vous, vous avez eu la chance de ne pas être mis dans une boîte tout de suite. Et, mais c'est quand même un peu par la dissidence que vous avez découvert la musique. C'est intéressant, puisqu'il y a ce côté contre et cette découverte clandestine qui a fait de vous le musicien que vous êtes aujourd'hui.
Je pense que la musique, c'est... J'ai l'impression qu'on est, on est avec la musique. On est en musique. C'est-à-dire que j'avais une petite voisine qui écoutait la même chose que moi, parce que moi, j'avais envie de lui faire découvrir ces choses-là. Elle était toujours en train de jouer avec sa petite poupée en face de moi, et je me disais, mais pourquoi elle danse pas? Pourquoi? Parce que c'était quand même l'époque swing. Hein. Mm-hmm. Donc moi, naturellement, je tournais tel un derviche jusqu'à tomber par terre. Et elle me regardait comme ça, avec les yeux comme hypnotisés, mais à la fois sans bouger l'once d'un doigt ou voilà, surtout d'un pied. Et c'était terrible, mais à la fois, quand on est enfant, on dialogue très peu, et même avec les enfants. En tout cas, c'était mon cas.
Donc vous associez la danse à la musique, et la musique à la danse, et vice-versa.
Oui, mais bon, donc je disais, la musique, c'est quelque part, c'est pas inné, on est dedans, on n'est pas, quoi, finalement. Enfin, c'est un peu ça. C'est... On est musique, on est musique. Mmh. On est la musique.
Oui, c'est de la sémantique. Après l'évocation de ces quelques souvenirs d'enfance, Christian Vander, nous allons faire un petit coucou à l'enfance avec un extrait de vos musiques. À tout à l'heure.
Revenu. silence trouve aujourd'hui en vous sa récompense. Voyez ce qu'ils ont souffert, ils ne demanderont plus rien, inondant de joie mon beau pays d'amour. Mes yeux ont quitté la terre.
Poursuivons notre entretien, Christian Vander. La découverte de l'instrument s'est passée comment pour vous ?
Comme un enfant, j'étais fasciné par... c'est un peu particulier. J'ai eu la chance aussi, encore une fois de plus, de découvrir des musiciens très jeunes à une époque où on n'ose pas sortir les enfants, on a peur, surtout aujourd'hui d'ailleurs, pour les oreilles, on met des petits bouchons, hein, tout ça. Ma mère m'amenait dans tous les grands clubs de jazz de l'époque, notamment un des plus connus où jouaient les Jazz Messengers, c'était le Club Saint-Germain. Et donc, j'étais souvent assis à côté de la batterie. Ça pouvait être Herb Blackett, Kenny Clarke, des gens comme ça. Mais avant tout ça, les cymbales, les couleurs des cymbales, le cuivre, déjà, c'était un monde. J'ai fait souvent des rêves à cet âge-là de cuivre, de barres de métal qui se promenaient dans l'espace. Et moi, les traversant. Ça, c'était magnifique. Ces rêves de métaux avec ces sons vibratoires, je dirais, que je ressentais, mais que je ne pourrais pas traduire à l'époque, sont les rêves que je faisais. Et ce qui me fascinait donc le plus, c'était les cymbales. Ça a commencé par les cymbales. Et ça tombait bien, si on peut dire, puisque Kenny Clarke était le maestro des cymbales. Et c'est lui qui a inventé également le jeu de cymbales avec la Charleston, qui a inventé ce chambada que tout le monde connaît aujourd'hui.
Il y avait un piano chez vous ?
À l'époque, non. Il y avait un piano chez les voisins. Et dès que je pouvais, j'écoutais les sons très graves. Je jouais les notes graves, je jouais les touches graves. Et j'entrais dans ces sons comme si c'était comme des matériaux. Ce que c'est, en fait. C'est une sorte de matériau vibratoire qui se déplace dans l'espace, mais qu'on ne voit pas, qu'on perçoit avec ses sens. Ça peut être les oreilles, bien sûr, mais déjà vibratoire. On peut les percevoir à distance dans le corps. On pourrait dire qu'un peintre pourrait écouter un disque, ce qui n'est pas le cas d'un musicien. On ne peut pas peindre en jouant de la musique, à moins de s'appeler Daniel Humer.
Mais vous-même, vous êtes peintre. J'ai vu dans le fanzine qui vous est consacré, le fanzine Ascension, des œuvres que vous avez réalisées. Il y en a une qui m'a beaucoup amusé, c'est La machine à escargot. Vous vous livrez aussi à l'art pictural, troquant vos baguettes pour les pinceaux.
Oh, c'est plutôt du pastel. J'ai toujours une approche très naïve, très enfantine. Mettons. Parce que naïf, on pourrait imaginer quelque chose d'autre. Maintenant, je me détends avec le pastel. Le pastel gras, notamment, parce que ça se malaxe, c'est de la matière. Ça peut se travailler avec les doigts, justement. Ça se frotte, c'est souple et vibrant. Mais maintenant, j'aime bien les jeux de couleurs. Quand quelquefois ça se passe bien, ça peut ressembler à quelque chose. Je pars toujours d'une idée. Je dis, tiens, je vais dessiner une locomotive. Comme les enfants, on a envie de dessiner des locomotives. Et puis à la fin, qu'est-ce qui reste d'une locomotive ? On sent qu'il y a eu un tunnel, peut-être. Beaucoup de fumée.
Non, ce n'est pas de l'art de l'enfumage que vous voulez nous traduire ici. Il s'agit d'imaginaire. Et le rapport de la peinture avec la musique me paraît évident, puisqu'il s'agit de tableaux. À l'écoute de votre musique, j'ai été saisi justement par ce tableau proche des tableaux d'un opéra, avec une couleur affirmée, une couleur de composition affirmée. Dans un langage technique, on appelle ça le pandiatonisme, que l'on retrouve chez Debussy, Ravel, toute l'école néoclassique française, et même chez Karl Orff d'ailleurs. On va arrêter là les comparaisons. Christian Vander, pour sortir un petit peu de ce tunnel plein de fumée, j'aimerais revenir un peu à ce que vous évoquiez au début de cet entretien. C'est votre rapport de premier compositeur, si j'ose dire, avec la musique ambiante, celle qu'on entendait un peu partout. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce propos ? Je vous écoute.
Oui, je voulais dire qu'à l'époque, les gens venaient surtout écouter Magma pour le batteur, hélas. Donc que les thèmes soient composés par, à l'époque, Teddy Lasry, François Cahen, Claude Angel, les gens ne se posaient pas trop la question. Globalement, ils aimaient Magma, parce qu'il y avait une sorte de machinerie, parce qu'il y avait aussi cette machine, en l'occurrence moi à l'époque, qui animait franchement toutes ces musiques, que ce soit mes compositions comme leurs compositions. Les gens n'y faisaient pas une grande différence. Je ne sais même pas si aujourd'hui les gens savent qu'est-ce qui a été composé par Claude Angel, par Teddy Lasry. On sait dans le temps, mais c'est un peu dommage. Voilà ce que je voulais dire. On a composé parce que on était tous une équipe, on avait tous envie d'autre chose et on avait tous envie de sortir en effet de la boîte. On ne voulait pas se laisser enfermer, nous laisser dire ce qu'on avait à faire ou quoi que ce soit. On avait l'impression en tout cas de faire quelque chose de différent. C'est surtout ça qui est important.
Visiblement, et je dirais même auditivement, le but a été atteint.
Je l'espère. Moi, ce que je peux dire, c'est que Magma a commencé en 1969, donc j'ai dit, mais jusqu'à 1967, de 57 à 67, pratiquement, je n'écoutais que la musique de John Coltrane. J'ai suivi son parcours, ce qui n'était pas le cas des amis qui travaillaient avec moi à l'époque. Chacun avait son parcours, chacun avait son école de musique, ses maîtres, ses préférences, etc.
Référence.
Ouais. Bon. Oui, il ne faut plus dire préférence, non, c'est ça, je crois.
Pourquoi ? Non, vous êtes libre de vous exprimer à l'antenne.
Hein, c'est pour ça tout à fait normal.
Tout à fait normal. Vous êtes invité. Hein, on parle sous le sceau de la liberté. Vous avez donc sous ce même sceau.
Mais certainement pas d'égalité.
Ça, c'est un autre débat. On pourra peut-être l'aborder dans la deuxième partie de l'émission qu'on diffusera dimanche prochain. Il s'agit donc non pas de se démarquer pour se démarquer finalement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes à l'époque qui ont fait des choses un peu du domaine de l'élucubration, du gadget, de la surprise en fait, qui étaient originaux mais qui n'ont pas tenu dans le temps. Or, cette musique de Magma qui est devenue vôtre par la force des choses, puisque vous êtes devenu le seul compositeur par la suite.
Et là.
Ah bon, c'est un regret que vous avez.
Oui, moi c'était un petit peu comme l'idée de la musique, c'est donner envie de donner envie. C'est-à-dire, moi j'aimerais travailler avec des gens qui proposent des compositions à l'intérieur du groupe, ça c'est certain.
Mm-hmm. Il y a peut-être des auditrices et des auditeurs de RVE qui vont répondre à cet appel d'offres, on ne sait jamais. Pour revenir à cette notion d'amour partagé d'un style, moi j'aurais une position un petit peu différente.
Ce que je voulais juste dire, oui. C'est simplement que vous disiez que certaines personnes à l'époque, certains musiciens qui ont composé certaines choses qui devaient durer ou pas, bon, on pensait que ça allait durer et puis finalement non.
Ils ont été saisis par une mode.
C'est le temps. Ça c'est peut-être le temps qui dira. Les choses reviennent. Hein. Des cycles comme ça. Et il y a peut-être des choses de qualité qui se sont perdues, je pense. Mais surtout, de l'instant où les gens sont vivants, je crois que c'est la possession et possédée par la musique. Bien des gens me disaient, bien des musiciens avec qui, ou que je rencontrais, me disaient « Je suis fou de musique. » Et moi, je disais « Moi aussi, je suis fou de musique. » Qu'est-ce qui faisait la différence ? C'est qu'un des deux était fou de musique. Voilà. Véritablement. Pas le prouver. Qu'est-ce qui faisait la différence? Quand on dit on est fou, ce ne sont que des mots. Évidemment, on aurait pu avoir la chance de partir plus tôt. Ça, ça peut être une chance. On n'aurait pas tout dit, peut-être. Ou je n'aurais pas tout dit. Je dis souvent « on » quand je parle de moi. Ou « lui ». Et c'est le problème. C'est le problème de pouvoir dire tout avant de partir.
Vous ne pensez pas que l'existence humaine telle qu'elle se défile à l'heure actuelle est un peu brève quand même pour exprimer un art, son propre art dans sa totalité? C'est un des grands regrets de chaque artiste, je crois.
C'est une bonne question. Je pense simplement que j'allais être redondant, hein. Vous savez, j'aime pas le terme. Mais j'ai toujours imaginé quelqu'un qui mettait la clé dans la serrure de manière magique. Quand on habite évidemment au même endroit, glisser la clé dans la serrure et qu'elle, comme par magie, le geste, on passe une vie à mettre la clé dans la serrure. On ne voit pas le geste, on sent. Et la porte s'ouvre comme par magie, comme un souffle. Et ça, on pourrait prendre une vie pour ça. Donc ça veut dire, en effet, la musique, c'est immense, c'est terrifiant.
C'est pour ça que vous laissez une porte ouverte, mais vous en avez ouverte quand même.
Voilà, mais c'est déjà c'est quelque chose. C'est, voilà.
Vous avez ouvert une porte que certains ont prise. Différents groupes d'expression, on va dire un petit peu plus engagés, un petit peu plus démarqués que la mode ambiante. Le rock, parce que ça va très très vite, hein, les modes. On est arrivé très vite au disco. Hein. Mais ces portes, ces passages ont été empruntés par ce qu'on peut appeler des émules. Qu'est-ce que vous pensez de cet écho que vous avez favorisé par votre attitude complètement engagée physiquement et spirituellement dans la musique? Et qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui se sont inspirées de certaines de vos idées pour développer d'autres imaginaires?
Moi, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai tenté, c'est d'amener les gens à la source. Quand les gens me posaient des questions, je ne parlais que rarement de magma. Je les ai toujours amenés à écouter les bonnes choses, c'est-à-dire remonter à la source. C'est ce qui était le plus important pour moi.
Donc votre doigt montre la lune, mais il fallait pas regarder le doigt.
Ouais, c'est bien.
Je suis venu un soir d'hiver porter les vœux des gens d'hier, fleurir les jours lointains de ceux qui sont amers. Je suis venu un soir d'hiver porter les vœux des gens d'hier, fleurir les jours lointains de ceux qui sont amers.
Christian Vander, nous allons, malheureusement à cause du temps, c'est toujours la limite terrible pour les artistes, refermer une petite porte momentanément, puisqu'il s'agit du premier volet de l'émission qui vous est consacré. Et on va donner rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs à la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.
Bien, merci à vous.
Merci Christian d'avoir répondu à cet entretien et on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.